Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ et son Église. Voilà le titre de la série que nous continuons aujourd'hui.
La Bible insiste sur la valeur et l'importance de l'Église. Pour cela, elle emploie plusieurs images pour nous aider à mieux comprendre sa place dans nos vies. Nous allons discuter de ces illustrations en compagnie de notre invité Alain. Alain, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann pour votre accueil et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre image de l'Église, cette fois-ci trouvée dans les écrits de l'apôtre Paul. Ce dernier affirme que l'Église est le corps de Christ. Paul emploie cette image surtout dans le chapitre 12 de sa lettre à l'Église de Corinthe, et nous allons étudier ce texte en profondeur. Cependant, il existe d'autres références instructives au sujet du corps de Christ trouvées dans ses lettres aux Éphésiens et aux Colossiens.
Il s'agit d'une illustration assez parlante, car nous avons tous un corps, ce qui nous permet de comprendre ce dont Paul parle. Et pourtant, il n'est pas forcément facile de saisir le sens de cette image employée par l'apôtre. Alain, pouvez-vous nous aider?
Oui, bien sûr. En bref, cette image souligne une vérité merveilleuse qui est l'unité de l'Église ainsi que sa diversité. Nous allons examiner ces vérités plus en profondeur au fur et à mesure que nous lirons le chapitre 12 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Dans un premier temps, Janine va nous lire les versets 12 et 13 de ce chapitre.
Le corps humain forme un tout et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire.
Merci. Pour commencer, je voudrais souligner une notion assez mystérieuse mais vraie. Tout chrétien authentique, quelle que soit son appartenance confessionnelle, est uni à Christ. Il fait partie du corps de Christ, tout comme nos bras, nos jambes et nos organes font partie de notre corps. Le chrétien est aussi étroitement et intimement lié à Christ que mon bras est attaché à mon corps. Le chrétien vit sur le plan spirituel précisément parce qu'il est uni au corps de Christ, de même que mon bras vit et agit parce qu'il demeure attaché à mon corps.
Et Paul mentionne que nous sommes unis au corps de Christ par le baptême de l'Esprit. Il y a une controverse au sujet de cette notion, me semble-t-il. Que signifie-t-elle?
Oui, je ne voudrais pas trop m'y attarder, mais dans le contexte de ces versets, le baptême de l'Esprit correspond plutôt à la conversion d'une personne et non pas à une expérience subséquente. C'est au moment où nous mettons notre foi en Jésus que l'Esprit vient nous donner la vraie vie, la vie spirituelle et éternelle, la vie vécue en union et en communion avec Christ. Le mot baptême évoqué dans les débuts de la vie chrétienne est notre initiation à la vie spirituelle. Le mot baptême évoque aussi l'immersion. Nous sommes, si vous voulez, submergés en Christ. Il s'agit d'une manière de décrire la nature de notre union avec lui. Pour moi, tout vrai chrétien a forcément reçu l'Esprit de Dieu, car c'est par cet Esprit qu'il est uni à Christ.
Notre union avec Christ est une relation intime, vécue de façon très personnelle. Et pourtant, si nous sommes unis à Christ et formons son corps, cela veut dire que nous sommes aussi unis les uns aux autres.
C'est exact, Yann. Et Paul emploie cette illustration du corps justement pour insister sur l'unité de l'Église. Une unité vécue aussi bien sur le plan universel qu'au niveau local. Le corps humain est composé de membres et d'un grand nombre d'organes. Et pourtant, tous font un. Tous travaillent ensemble dans l'harmonie pour le bien de la personne et accomplir sa volonté. En arrivant à un carrefour, une jambe ne peut pas décider d'aller à gauche alors que l'autre veut aller à droite. Non. C'est notre cerveau, là où se trouve le pouvoir de décision qui décide où aller, et le corps doit obligatoirement suivre. Si une jambe pouvait s'arracher pour suivre son propre chemin, elle se retrouverait rapidement dépourvue de vie. D'ailleurs, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, Paul affirme la même chose. C'est donc la parole à notre lectrice pour la lecture des versets 14 et 15.
Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant?
Merci. Alain, pourquoi Paul prend-il la peine d'insister sur l'unité de l'Église en tant que corps de Christ?
Il faut se rappeler que l'Église de Corinthe était une Église fort divisée. De ce fait, elle était en proie à de nombreux problèmes. On y trouvait des divisions entre riches et pauvres. Il y avait des rivalités et des jalousies. Des petits groupes existaient, chacun s'attachant à un enseignant spirituel particulier et affirmant que leur compréhension de la vérité était la meilleure. Comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de sujets de tension et de conflit.
Donc c'est dans ce contexte difficile, précis, que Paul affirme, et je le cite, « Nous formons un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. »
Oui, c'est exact, Yann. C'est un appel à l'ordre. L'Église entière est une expression locale du corps de Christ. Nous sommes unis à Christ, et nous sommes unis les uns aux autres, ce sont des faits. Maintenant, il faut refléter et vivre au sein des Églises cette unité fondamentale que Dieu a créée.
Comment vivre alors cette unité? Qu'est-ce que cela implique?
D'abord, Paul affirme qu'au sein des Églises, les choses qui d'ordinaire divisent les hommes dans le monde n'ont plus lieu d'être et que nous devons les surmonter. Paul cite les Juifs et les non-Juifs, et il fait allusion ainsi aux traditions religieuses, aux cultures et aux différences raciales qui peuvent diviser et créer des tensions. Dans l'Église, nous devenons un. Il nous faut mettre de côté nos préjugés et nos différences pour accepter et aimer tous nos frères, quel que soit leur arrière-plan culturel, tribal ou religieux. Paul évoque aussi les divisions entre hommes libres et esclaves. Leurs différences et statuts étaient fort marqués au 1er siècle dans l'Empire romain. Mais dans l'Église, chacun devait considérer les autres comme ses frères et ses sœurs et surmonter toute différence économique et sociale. Encore de nos jours, on peut rencontrer des tensions entre riches et pauvres. Des catégories sociales peuvent être méprisées et marginalisées. Les mendiants et les chômeurs, les veuves et les orphelins par exemple, ou bien les victimes du sida. Mais au sein de l'Église, il faut agir autrement. La compassion et la compréhension doivent remplacer le mépris et le rejet. La générosité et la solidarité doivent remplacer l'indifférence ou la marginalisation.
Il existe de nombreuses autres différences qui peuvent aussi devenir un sujet de tension ou de division.
Oui, Yann, comme les différences entre hommes et femmes, entre jeunes et moins jeunes. Chacun a une personnalité différente et chacun exprime sa foi et sa spiritualité de façon différente. Pour toutes ces raisons, l'unité et la paix dans l'Église ne sont pas acquises. Non, il faut y travailler. Il ne faut jamais perdre de vue cet enseignement de Paul en Christ. Nous sommes un et nous formons un seul corps. Oui, nous sommes des personnes différentes à bien des égards, tout comme les membres et les organes d'un corps sont distincts. Une grande diversité se trouve au sein de l'Église, mais nous devons apprendre à vivre cette diversité dans l'unité et l'harmonie, car le fait est que nous sommes un corps, le corps de Christ. Nous devons donc apprendre à vivre cette réalité dans le quotidien à travers nos relations envers tous les autres croyants.
Merci beaucoup Alain pour ces rappels importants. Nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais nous reprendrons nos discussions à partir de 1 Corinthiens 12 la prochaine fois.
Merci Yann et au revoir à tous.
Merci Alain. À présent, nous allons écouter une courte méditation biblique. Nous reprenons notre série dans la première épître de Jean. Claude nous fera part de ses réflexions. Mais d'abord, Sandra va nous lire 1 Jean chapitre 3, verset 3.
Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur.
L'apôtre Jean nous exhorte à nous rendre purs. Mais des questions surgissent. Comment faire? Comment devenir pur? La dernière fois, nous avons appris l'importance de la confession et de la confiance en l'œuvre de Jésus sur la croix. Jésus, grâce à son sacrifice, purifie celui et celle qui lui confesse ses péchés. Cependant, cette vérité merveilleuse suscite une question importante. Pouvons-nous nous reposer sur le fait que Jésus nous pardonne et continuer à pratiquer le péché sans chercher à changer? L'assurance de la grâce de Dieu enlève-t-elle toute responsabilité de changement personnel? La réponse est non. Nous devons désirer faire des progrès vers une pureté de cœur, de motivation, de parole et d'action. Celui qui s'attache à Jésus par la foi veut devenir comme lui. Il cherche à cesser de pécher et aspire à la justice, la droiture et l'intégrité. Jean poursuit son épître avec une exhortation à ne plus marcher dans le péché. Écoutons tout de suite ces paroles.
Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pèche pas, et celui qui pèche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pèche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu.
Ces paroles sont dures et frappantes. Elles soulèvent de nombreuses questions auxquelles je répondrai lors des prochaines émissions. En attendant, il est clair que le chrétien ne peut pas se satisfaire de vivre dans le péché, mais au contraire, il doit mener un combat quotidien pour faire des progrès vers la sainteté.
Merci Claude. Nous sommes impatients de découvrir le sens de ces versets difficiles. Nous espérons donc, chers amis, que vous pourrez nous rejoindre dès notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.